RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Et 1 et 2, 0 aujourd'hui à Barcelone. Poggi et Del Toro ont joué les toreros. Le duo de l'équipe UAE a d'abord fait travailler les picadors. Après chaque passage, place d'Espagne, avant la mise à mort dans l'ultime difficulté du jour sur les hauteurs de Montjuïc. Le Mexicain Isaac Del Toro a placé son attaque, encouragé de la voix par son coéquipier Tadej Pogacar, lui criant sûrement On vérifiera quand même s'il n'y a pas eu un problème de post-production lors du doublage de cette séquence. Mais ce qui est certain, c'est que Poggi a offert un beau cadeau à Del Toro, car il avait largement la place de s'imposer aujourd'hui. Grand pince ou seigneur arrogant, on évoquera le parfum de cette victoire dans quelques instants avec nos consultants. On reviendra également sur la position des adversaires, le final chaotique pour Paul Sexas, mais sans conséquences importantes. Et on parlera également de la journée de demain, car les incendies dans les Pyrénées-Orientales vont avoir des conséquences sur l'étape et le public. On vous expliquera tout ça. C'est l'After, on est à l'heure, que du bonheur.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
C'est parti depuis quelques instants, effectivement, pour cette deuxième étape entre Tarragone et Barcelone. 168 km à parcourir. Beaucoup, beaucoup de monde dans cette côte de Bègue. On a l'impression d'être dans un col pyrénéen. Les Espagnols sont fans de cyclisme. Il y a évidemment beaucoup de touristes qui sont là, présents également. La totale pour Molinar, parce qu'il a gagné le sprint tout à l'heure. Il remporte là aussi le sprint sur la côte de Bègue pour le meilleur grimpeur. Il va prendre 5 points.
Prend la mécanique pour Paul Sexas, qui est attendu par l'un de ses équipes.
Aurélien Paré-Pin, bien géré, parce que c'est les deux qui ont les cotes les plus proches.
Ah, il a encore un problème avec ce vélo-là, non ?
Encore un problème, il s'arrête à nouveau.
Et il va revenir très rapidement, il se retrouve à nouveau dans la file des voitures. On est à 37 km de l'arrivée.
Moi, je vous trouve très optimiste pour... ça va rentrer, il a du calme, il va revenir, il va se replacer. On est à 4 bornes du pied de l'entrée sur le circuit, à 5 km 500.
Ah bah là,
du pied de la bosse.
Maintenant, il y a la cassure.
Là, tous les leaders sont là. Remco Evenepoel, 5 km 500 de l'arrivée. Et ça va être l'ascension, l'ultime ascension aujourd'hui de Montjuïc, avec les coureurs d'Uno X qui sont passés en tête pour débuter cette ascension.
Ça va décoller.
RMC, la flamme rouge.
Il faut négocier ce virage, long virage à droite pour Skelmose. Mathias Skelmose toujours en tête avec dans sa roue Isaac Del Toro qui a recollé. Et le sprint au final avec Isaac Del Toro qui est debout. Tadej Pogacar avec Isaac Del Toro. Ils vont peut-être faire un et deux. Il veut laisser la victoire à Isaac Del Toro. Tadej Pogacar qui veut laisser la victoire à Del Toro. C'est déjà la, vraiment la suprématie du AE. Il regarde derrière, il laisse la victoire. Oh, la victoire d'Isaac Del Toro. Qui regarde, il se serre la main sur la ligne. Allez, on peut être déjà super, super dominateur sur ce tour. Vingegaard est derrière, tout comme Remco Evenepoel.
Si le vamos ayudar, pero no tiene que dar.
Ça danse dans le studio, évidemment, musique mexicaine. Isaac Del Toro à l'honneur. Aujourd'hui, on va pouvoir évoquer cette première étape en ligne du Tour de France 2026 avec Christophe Cessieux. Bonsoir Christophe.
Bonsoir mon cher Pierre-Yves.
Et avec nos consultants qui dansent, Richard Virenque. Tu danses, Richard, aujourd'hui? Tu as vu une belle journée?
Oui, c'était sympathique. Et on a vu une belle domination de l'équipe UAE. Non, c'était la classe pour Pogacar qui donne et offre sa victoire à son équipier. Ça démarre bien le tour pour cette équipe.
Ah oui, ça c'est sûr, ça démarre bien. Bonjour Jérôme Pinault.
Bonjour Pierre-Yves Leroux, bonjour à tous.
Il y aura du débat, je pense, dans quelques instants, quand on va évoquer cette victoire. Entre la classe et la casse, on verra ce qui est le mieux. Bonjour Jérôme Coppel.
Salut Pilou, salut à tous.
Et bienvenue dans l'After, donc avec cette victoire d'Isaac Del Toro, le Mexicain, le jeune Mexicain qui a tout raflé aujourd'hui et donc qui s'impose. Victoire offerte, c'est l'enseignement initial de cette journée, la confirmation qu'on a chez UAE, deux coureurs de très haut niveau, vainqueurs de Grand Tour en puissance. Richard, donc tu le disais, toi tu as trouvé que c'était la classe, Tadej Pogacar qui offre donc cette victoire à Isaac Del Toro, alors que très sincèrement, bon, il aurait pu s'imposer, j'imagine que c'est ce que tu as vu toi aussi.
Oui, il était un ton dessus, hein, Pogacar, dans cette ascension. Et Del Toro lui a préparé le terrain dans les 400 derniers mètres. Et forcément, derrière, ça, c'est tout le monde s'est écarté. Et ils étaient vraiment au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça que Pogacar a regardé Vingegaard. Vingegaard était en train d'avoir les warnings. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattrapé. Non, mais c'était très classe parce qu'il aurait pu être cannibale comme il a été un peu tout au long de cette saison. Mais là, il sent que il faut donner aussi pour recevoir. Et je pense que c'est classe. Et l'image, moi, m'a pas choqué. Hein. C'est le sport et c'est l'équipier. Non, j'ai trouvé ça assez classe.
Jérôme Coppel, tu as vu ces images aussi de l'arrivée et cette domination. On savait qu'il y aurait le retour de la claque d'hier avec Lévis-Malisebaï qui l'avait emporté dans le contre-la-montre par équipe. On se doutait qu'il y aurait la réponse du berger à la bergère aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Alors moi, je trouve bien le fait que Tadej Pogacar récompense ses coéquipiers. J'aime pas la manière dont ça s'est fait et surtout les derniers mètres où on voyait, on reviendra là-dessus après, mais où on a vu Tadej Pogacar à 20 mètres de l'arrivée encore encourager Del Toro. C'est surtout que ça m'inquiète pour la suite du tour quand je vois déjà cette domination là. Voilà, d'offrir une victoire, c'est bien. La manière, je suis moins fan aujourd'hui.
Est-ce que, Jérôme, c'était important aussi de s'acheter finalement un peu la paix, même si on sait que c'est un équipier modèle, mais en offrant une victoire comme ça en tout début de Tour de France, finalement, ça permet aussi de récompenser tout de suite les équipiers?
Ouais, c'est un moyen de récompenser un équipier qui n'en est pas un. Hein. C'est plutôt un co-leader, je pense. Un geste que l'on a vu parfois.
Un co-leader, un féodé quand même. C'est pas un co-leader.
Mais ça reste un co-leader. C'est un garçon qui a gagné beaucoup de courses, qui est annoncé comme son successeur, même si on est chez UAE, on lance sur toutes les très bons coureurs. Malgré tout, ça reste quelqu'un qui peut être la carte maîtresse de l'équipe et qu'on va devoir garder longtemps dans le général pour gagner ce Tour de France.
Mais ça, je pense qu'il aurait pas fait ça avec Ayuso lorsque Ayuso était son lieutenant.
C'est-à-dire
qu'il y a quand même un rapport entre les deux. Il y a le patron, il y a son numéro 2, il lui fait des cadeaux, mais il sait que Del Toro sera a priori toujours au service et fidèle.
Alors il y a ça, mais après il y a le côté humain. Tadej Pogacar apprécie vraiment Del Toro. D'ailleurs, j'ai rarement vu, même quand Tadej Pogacar lui-même gagnait, je l'ai rarement vu aussi content qu'aujourd'hui. Il y a des images qui tournent sur les réseaux sociaux avec les supporters mexicains et tout. Donc en plus que Del Toro soit fidèle, j'ai l'impression que Pogacar, c'est un peu le mentor de Del Toro. Donc la relation, elle va plus loin que simple coéquipier, alors qu'avec Ayuso, bien sûr, c'était plus compliqué. Mais quand on a un qui se sacrifie à 100% pour lui, et Ayuso, on sait très bien qu'il en gardait toujours un petit peu pour aller faire sa place à la fin, quand tu t'appelles Tadej Pogacar, tu récompenses celui qui va se dépouiller complètement pour toi.
Vous arrivez dans l'after, vous découvrez peut-être la victoire de Del Toro, vous allez en savoir plus, parce qu'on va vous rappeler les classements de l'étape et les classements général avec toi, Christophe.
La victoire donc pour Isaac Del Toro, le jeune Mexicain. On rappelle que c'est son premier Tour de France, qu'il a réalisé une saison extraordinaire. Il s'impose juste devant son patron, hein, Tadej Pogacar. Ils sont arrivés dans le même temps. Crédité également du même temps, Remco Evenepoel, qui termine troisième, et Jonas Vingegaard, légèrement décroché, mais qui est quand même crédité du même temps que les trois premiers. Avec un petit retard de 3 secondes, on trouve un petit groupe emmené par Mathias Kelmose, le Danois à la formation Lidl Trek. Johannessen est juste derrière. Et puis on a un trio de Français composé de Romain Grégoire, de Lenny Martinez et de Paul Sexas, qui terminent eux aussi à 3 secondes. Pidcock est dans le même groupe, Ayuso également. Bref, ils sont quasiment tous là. Et puis un peu plus loin, eh bien, un autre groupe arrive avec 10 secondes, dont fait partie Alex Baudin, le coureur français de la formation IF Education Easy Post.
Donc de toute façon, Jonas Vingegaard est toujours en jaune.
Ah bah oui, oui, mais son avance est quand même réduite de moitié.
Parce qu'il y avait les petites bonifications.
Exactement, il avait 12 secondes d'avance sur Poggi hier soir, il n'en a plus que 6 ce soir, et ça ne fait pas beaucoup. Hein. Il tient son maillot jaune à un petit fil seulement. Troisième Remco, hein, voilà, on a quand même le podium des derniers tours, enfin pas de celui de l'année dernière, mais il y a 2 ans, un peu inversé, puisque Vingegaard est toujours en jaune. Remco est donc troisième au général avec 15 secondes de retard. Del Toro se replace, il est quatrième à 16 secondes. Ayuso suit avec 19 secondes. Sexas est ce soir 6e à 42 secondes. Et derrière, on trouve Romain Grégoire et Florian Lipovitz, ainsi que Lenny Martinez. Voilà le classement général.
On va revenir dans quelques instants sur cette image finale, parce qu'on a cette rubrique carton rouge, carton orange, carton vert. Dans l'after, et Jérôme Pinault, tu nous feras, tu nous donneras la couleur de ton carton. Mais Richard, ce qu'on a vu aujourd'hui avec ces deux garçons qui font 1 et 2, c'est ce que tu expliquais dès hier, c'est-à-dire que tu savais qu'on allait se rendre coup pour coup dès les premiers jours. Là, très clairement, aujourd'hui, le round, il est remporté par UAE.
Oui, tout à fait, grandement. Hein. Mais c'est le parcours hein, aussi qui a décidé cela. Hein. Vous avez vu. Trois ascensions du Mont-Jouy, de cette côte au stade olympique. La sélection s'est faite naturellement, sans attaque, juste avec un train assez soutenu. Et ben, la sélection s'est faite par derrière. Et ensuite, ben, ils ont accéléré pour faire un sprint. Et ils se sont retrouvés, je pense, comme ça, assez surpris. À la relance du dernier virage, de se retrouver que ils sont où les autres, ils étaient tous à l'agonie. Donc voilà, je comprends Jérôme Coppel qui dit que ça a donné un coup aussi un peu à ce Tour de France, parce qu'on se dit waouh, dès la première difficulté comme ça, il y a une équipe qui écrase quand même la course, alors qu'on a monté seulement 1 km d'ascension. Ouais, ça, on se pose des questions, mais en tout cas, le geste après de l'équipé, ben, on l'a vu après à l'arrivée. Hein, Poggi, il a attrapé dans ses bras, il a soulevé, il a sauté avec lui, ils se sont arrosés. Donc c'était la fête. C'est quelque chose qui se sont pas cachés pour le faire transpirer, quoi.
Par contre, oui, Tadej Pogacar offre la victoire à Del Toro, mais il fallait encore être là dans le final. Et Del Toro a aussi été chercher sa victoire. C'est-à-dire, on se rappelle, dans la dernière descente, le dernier virage, il a tourné. Ça passe ou ça casse. C'est ici qu'il gagne finalement Del Toro, parce que ça permet, et Tadej Pogacar fait en plus une petite cassure, donc ça perd juste avant le virage, ça permet à Del Toro de prendre un petit peu d'avance. Donc il construit sa victoire, déjà avec l'aide de Pogacar bien sûr, mais il construit sa victoire tout seul. On rappelle qu'il a eu un ennui mécanique, il a fait une petite chasse aussi Del Toro, c'est-à-dire qu'il est très très bien. Et finalement, parce que okay, Remco Evenepoel fait troisième, mais il a entre guillemets pas existé, si j'ose dire ça, dans le final. On a vu Vingegaard, Pogacar et Del Toro. Donc Del Toro, il a quand même été aussi la chercher avec sa forme à la pédale.
Dans quelques instants, Maria Azé nous parlera un petit peu plus de Isaac Del Toro et des festivités qu'il y avait derrière la ligne, justement autour du Mexicain. Mais je vous propose donc de faire tout de suite cette rubrique carton rouge, carton jaune, ou voire orange, ou carton vert. Avec toi, Jérôme Pinault, quelle est la couleur du carton aujourd'hui et sur quel sujet ?
On va continuer sur le même sujet. Je vais attribuer un carton orange à Tadej Pogacar et à son équipe. Alors, principalement à Tadej Pogacar, non pas d'avoir offert une victoire. Il y a des records à aller chercher, il aurait pu lancer,
Carton orange parce qu'ils ont gagné ?
Non, carton orange parce que je déteste l'attitude qu'il a eue dans les 50 ou 100 derniers mètres. C'est pas digne d'un grand champion. Pour moi, un champion, ça doit être humble. Et là, il a manqué énormément d'humilité. Il a été très arrogant. Il a été dans son attitude. On le reconnaît pas comme ça. Il est dans la revanche de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il sait très bien tout ce qui s'est passé ces derniers temps, l'année dernière, le Tour de France. Il a passé des mauvais moments. Et son attitude, moi, je pense qu'un grand champion virait dans la roue de Jonas Vingegaard et voyait ce que Jonas Vingegaard allait faire de Del Toro. Et à ce moment-là, peut-être qu'il pouvait déboucher. Mais là, de le voir se mettre de côté, encourager dans un sprint à 200 pulses, quand on peut parler, hein, sport, normalement, on est en zone 1 ou en zone 2. Bon, lui, en zone 5, a priori, il peut encore parler, encourager son coéquipier et s'est retourné et se regarder derrière et scruter Vingegaard et se retourner de nouveau alors que Vingegaard était couché sur son vélo. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir qu'un jour, il aura peut-être un coup de bambou, un jour, il aura peut-être besoin de circonstances atténuantes. Alors, il est au-dessus des autres. Merci, on l'a vu, l'a encore vu aujourd'hui. Et quand je dis dans le commentaire, je suis inquiet, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas pour la suite du tour, que tous les haters de Pinot qui disent « ça y est, il recommence ». Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je suis inquiet pour la suite du tour, pour eux, pour nous, pour le suspense, mais aussi parce qu'à faire ça, tu
Il a un peu humilié
les nourris l'humilité.
Eh oui, mais
tu nourris l'animosité qui règne autour de toi dans le peloton. Parce que attends, Christophe, à faire comme ça, déjà il y a peu de gens. Ça ne se dit pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a qu'on en ras le bol. Dans le peloton.
Et bien sûr que tout le monde en a ras-le-bol. Quand il y a un mec qui domine, tout le monde en a ras-le-bol. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que le cyclisme est-il un sport de gentleman ? On est au début du tour. Pogacar, hier, est battu par Vingegaard. Il prend un coup
de tête sans vraiment. Alors qu'il a gagné l'étape. Ouais,
mais l'autre lui prend son maillot jaune. Pour Pogacar, ce maillot jaune, c'est quasiment une propriété privée. Or, Vingegaard est en jaune depuis hier. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire aujourd'hui ?
Qu'il allait le récupérer tout seul, comme un grand, qu'il attaque et qu'il.
On sait qu'il
n'a
pas envie de faire le protocole. On sait qu'il n'a pas envie de faire les conférences de presse. On sait qu'il a envie de mettre Del Toro, qui est son petit protégé, qui est son successeur, sur une bonne ligne. Moi, je suis désolé.
C'est la manière qui me dérange.
Oui, mais la manière. Mais vous croyez qu'on est encore au 19e siècle, un sport de gentleman ? Non, c'est pas vrai. On est là pour se mettre des claques dans la gueule.
Parce qu'on a senti que toi, tu avais trouvé que c'était plutôt classe. Est-ce que tu comprends aussi qu'il n'aille pas gagner ? Parce que si le tour se joue à 4 secondes, sur les champs, et ça sera peut-être aujourd'hui.
Ah non, moi, je comprends le côté de Pogacar, c'est que comme hier, je l'ai senti, hein, il a pris un coup par rapport à Vingegaard. Aujourd'hui, il voulait lui rendre la monnaie. Et quoi de lui rendre encore mieux la monnaie que ça soit Del Toro qui le sorte de la roue et que lui parte avec Del Toro. Moi, c'est plus ça. Que j'ai ressenti, que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il voulait se le faire, ça, je l'avais compris hier, hein. Je l'ai dit dans mes commentaires qu'aujourd'hui, il va être là, il va vouloir mettre la balle au fond. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben, en plus, que Del Toro puisse le décrocher et partir tout seul sans qu'il puisse, ben, ouais, il a voulu l'humilier tout simplement, hein. C'est une humiliation et c'est le sport est fait un peu de ça avec la supériorité. On a des jours sans, on a des jours avec. Et si à un moment donné, on peut mettre un tacle à certains qui ont le limite dans une montée, même des fois, on prend des risques dans les descentes pour que l'adversaire se mange un poteau, entre guillemets. Hein. Mais c'est ça, le vélo, à un moment donné. Et c'est coup pour coup. Et là, je pense qu'il ne s'y attendait vraiment pas que Vingegaard, vu comme il marchait, et même tous les autres, hein, parce qu'il y avait Remco qui était là, il y avait des favoris qui étaient là. Mais ils ont été incapables. Pourquoi ? Parce que ce virage, comme vous l'avez expliqué, avec cette cuvette-là, on passe à plus de 70 km/h dans la cuvette. Et Del Toro l'a pris plus vite que tout le monde. Il était élancé, il avait de la vitesse. Et Pogacar lui a fait la cassure. Et là, bien sûr, derrière, eh ben, un trou d'air. Et il fallait le boucher. Voilà, c'est pour ça que ça
Richard,
comme...
Richard, à ce moment-là, est-ce que tu ne penses pas que la cassure, c'est très bien joué ? Ça, c'est magnifique. Mais pas de problème. Mais tu. Il aurait dû s'arrêter là, escalader dans la route Vingegaard, et peut-être lui mettre le coup de le sauter sur la ligne
peur,
pour prendre les bonifs.
Mais
tu te mets dans la roue.
Il
s'est mis sur le côté de la route pour lui montrer à tout le monde, et en le regardant en disant « Moi, je peux y aller, je suis à l'aise, je fume la pipe, mais je ne vais pas le faire. »
Ouais, mais je ne sais pas si tu as vu aussi après.
Nous, on est des connaisseurs de vélo.
Il a failli tomber après. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retourné pour voir où était tout le monde, où il était. Et il a failli se manger la barrière. Bah, donc il a fait un écart, on le voit.
Il se demandait ce qu'il faisait là. Il attendait que Pogacar passe.
C'est ça.
Je pense.
Et après, Poggi était là et il s'est écarté. Et comme tu disais, il hurlait, il disait allez, vas-y, accélère parce que tu vas la gagner. Et c'est pour ça que. Et lui, il était là. Donc après, l'émulation. Il a voulu la marquer en partant derrière son équipier et en revenant lui disant tiens vas-y tu la gagnes. Moi c'est simplement c'était pour lui mettre un bon tacle, dire ben t'as gagné le prono mais c'est moi le boss et c'est moi le chef, et ça on l'a bien compris, ils l'ont bien senti. Donc c'est pour ça que dans les prochains jours il va y avoir on va ronger le frein et voilà, ça va être une, mais on a bien compris aussi que les deux ils sont très à point, et maintenant il va falloir trouver des solutions comment les découpiller quoi, parce qu'il va pas falloir attendre à chaque fois l'arrivée quoi.
Christophe. Et puis, s'il a offert la victoire à Del Toro, c'est peut-être aussi pour dire, bon, vous m'avez bassiné avec votre Paul Sexas depuis des mois. Regardez, le meilleur des jeunes, c'est le mien, c'est Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, il est au-dessus de Ayuso, qui était en blanc ce matin. Il est au-dessus de Sexas. Il y a peut-être aussi un peu de ça.
C'est formidable. C'est formidable ce que tu es en train de nous dire, parce que un coureur à haute intensité dans le Tour de France, première étape, qui veut gagner, il veut faire le quintuplé, il va discuter avec Isaldé Toro, il fait faire un lead-out à McNulty de 30 km, il réfléchit qu'il ne va pas prendre le maillot, qu'il ne va pas attaquer, il va laisser attaquer les autres, il réfléchit que je vais rendre le coup à Sexas, je vais rendre le coup à Vingegaard.
Mais tu es surpris de la domination de Pogacar, on a l'impression que tu es surpris, que tu as l'impression que tout le monde pouvait lutter avec lui. Ben non, c'est le meilleur, on le sait depuis des années, il écrase la course, il écrase le peloton, et pas seulement dans le Tour de France, dans le reste des courses aussi. C'est la suite logique de ce qui se passe depuis. Alors on a tout un petit espoir que les autres soient au même niveau que lui. Non, il est au-dessus. Il est au-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Qu'est-ce on aurait dit, pour moi, l'image, c'est un élite dans une course de cadets qui encourage.
Ben, on peut revenir l'année, je suis passée, d'accord, mais... l'année passée, dans la dernière semaine du Tour, à un moment donné, Poggi, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû dévisser et laisser partir et jouer une autre course. Pourquoi? Parce qu'il était trop au-dessus de tout le monde. Et moi, je connais un peu le vélo. Et je peux vous dire qu'il a déroulé la dernière semaine parce que, quelque part, s'il continue à ce rythme-là, il aurait gagné 6, 7, 8 étapes. Et ça n'aurait pas été bon, on va dire.
Et apparemment, il avait ses problèmes de genoux aussi.
On a des problèmes de genoux. Mais bon, c'est pour ça qu'il fallait trouver une excuse, je pense, pour dévisser un peu. Et voilà. Mais il est au-dessus du lot. Il s'attaque à Paris-Roubaix avec des gaillards qui ont 15 kilos de plus que lui. Il s'attaque, c'est vraiment l'Eddy Merckx, on va dire, du cyclisme moderne, qui cannibalise un peu le cyclisme aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a autour de lui, un équipier, et voilà, donc c'est pour ça qu'il la joue comme ça. Bon, après, c'est quelqu'un aussi, qu'il faut le reconnaître, fait le spectacle, hein. Donc aujourd'hui, ils ont pris la course en main, un petit tour, on commence à accélérer de plus en plus, pas une attaque, et après on fait un sprint et tout le monde à fond derrière. Donc c'est vrai que on aura d'autres courses demain, après-demain, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, on a pris tous un petit coup, quoi, quand même.
C'est sûr, mais il y en a un qui a levé les bras quand même, c'est pas Pogacar. Et donc Maria, tu veux nous en parler un petit peu, parce qu'on commence à le connaître, Isaac Del Toro, le Mexicain, mais il est encore très jeune, donc il y a certains auditeurs peut-être qui se rendent compte de la qualité du garçon.
Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Tadej Pogacar, on parle beaucoup de Tadej Pogacar, forcément un tout petit peu moins d'Isaac Del Toro, son fidèle lieutenant, comme on l'appelle souvent, alors qu'il fait quand même probablement partie du top 5 mondial actuellement. On l'appelle Torito, hein, de son surnom Isaac Del Toro. Il n'a donc que 22 ans. Il a déjà 30 victoires en carrière, dont de très très grosses victoires. Alors ça a commencé par le Tour de l'Avenir en 2023, puis une étape sur le Giro en 2025. Mais la saison de la révélation, c'est surtout cette année pour Isaac Del Toro, vainqueur de l'UAE Tour, Tirreno Adriatico et surtout le Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a 3 semaines, la course de préparation pour le Tour de France. Cette victoire, c'est vraiment une consécration forcément pour le jeune coureur du AE, surtout qu'elle est offerte par son mentor Tadej Pogacar. Il lui a d'ailleurs, vous en avez parlé, sauté dans les bras à l'arrivée. On peut l'écouter, Isaac Del Toro, à l'arrivée. Il était très très ému, le Mexicain.
Ça signifie tout. J'ai déjà dit que j'étais très fier d'être au départ de cette course et de voir la confiance que me donne l'équipe, toutes ces personnes qui ont confiance en moi, mes amis, ma famille. Et c'est juste incroyable que Tadej, je fais partie de cette meilleure équipe avec ce coureur-là. Je ne sais pas quoi ressentir vraiment pour moi. Et encore merci à mes coéquipiers.
Big up à Jérôme Pinault pour la traduction exceptionnelle. Alors ensuite, c'était un peu le show à l'arrivée, c'était assez bizarre. C'était le grand show autour du bus UAE. Tadej Pogacar qui d'habitude rentre très très vite dans son bus. Là, c'était la fiesta, tout sourire Tadej Pogacar. Il a chanté avec les fans mexicains, il a mis un drapeau du Mexique autour de ses épaules. Il a vraiment célébré cette victoire d'Isaac Del Toro avec les supporters mexicains. Donc on sent qu'il est forcément très heureux pour son poulain, pour Isaac Del Toro, mais on va dire qu'il s'est pas gêné pour le célébrer. Ils étaient juste à côté du bus de Visma Lease Bike.
Ils n'étaient pas dans une grosse récupération.
Non.
Les journalistes.
Pas besoin. Gagner du temps.
Etc. Pas besoin.
Ah bah non. Autant il tire un peu la gueule quand c'est pour aller faire des protocoles, quand c'est pour venir voir les journalistes. Là, pour aller voir les Mexicains et célébrer, il n'y avait pas de problème. Tadej Pogacar, il était en forme. Non, mais évidemment.
Ils sont très nombreux, les supporters.
C'est assez impressionnant. Rodolphe Rio, Isaac Del Toro, vous en a parlé tout à l'heure dans la musette. C'est impressionnant le nombre de Mexicains qu'il y a sur ce Tour de France. France. Et ils chantent. Ils ont un chant en espagnol qui est assez exceptionnel. Et ils chantent. Ben non, je chante pas très bien et
demain,
je parle pas espagnol. Ouais,
demain.
Mais ils ont un chant qui est assez incroyable. Et ils chantaient ça tout à l'heure avec Tadej Pogacar. Et pour le coup, la séquence a été quand même assez marrante.
Et vous imaginez si ce soir le Mexique tape l'Angleterre en 8e de finale de la Coupe du Monde?
Fête nationale.
Je pense que le 5 juillet deviendra fête nationale au Mexique. Hein.
Ouais.
Jour férié, demain personne ne bosse. Hein.
Le 16 septembre normalement là, la fête nationale, mais ils vont l'avancer peut-être.
Pogacar est déjà citoyen d'honneur depuis ce soir, donc voilà, il ne manque plus que le foot.
Ils vont faire un beau sombrero, magnifique.
Je crois qu'il a prévu d'aller voir le match d'ailleurs, hein, Tadej, dans un bar à Barcelone avec des copains. Finir à vers 3h du mat, 3-4 tequila,
je le sens
pas plus.
Amer, mon Julien.
Il est un peu amer. Bon, on va changer de sujet dans ce cas-là. Allez, l'autre enseignement du jour, c'est que la hiérarchie derrière pour les adversaires n'est pour le moment pas établie entre certains leaders. Tu nous as donné les classements tout à l'heure, Christophe, avec un Remco Evenepoel et puis un Jonas Vingegaard qui termine 3e et 4e de l'étape, et puis un Juan Ayuso qui est à 3 secondes seulement. Donc il n'y a pas grand-chose de perdu. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand même, pour Jonas Vingegaard qui avait hier le maillot jaune, Jérôme Coppel, c'est une petite claque, une claquounette?
Alors, je vais faire la même réponse qu'hier dans l'autre sens. Je trouve pas non plus que ça soit une claquounette niveau physique. Il est pas sur une bosse qui lui convient vraiment. Lui, il aime bien les longs cols. C'est vraiment une bosse très punchy, donc qui convient bien à Del Toro et Pogacar. Donc je suis pas inquiet pour ça. Après, c'est plus justement lui a dû se rasseoir à 100 mètres de la ligne d'arrivée, et là, il a dû voir Tadej Pogacar et entendre surtout encourager son coéquipier et limite freiner pour que Del Toro puisse gagner. Là, mentalement, tu prends un coup. Physiquement, ça va, entre l'écart qu'il a fait hier et celui qui, enfin, aujourd'hui, ils sont dans le même temps avec Del Toro, finalement, et Pogacar, c'est jeu égal. Là, on peut rien dire. Par contre, psychologiquement, je me mets à sa place, et ça vaut pour tous les autres, hein. Ça vaut pour Evenepoel, ça vaut pour tous les autres. Là, psychologiquement, tu prends un coup, parce que Vingegaard, il était vraiment à bloc. Ok, la bosse lui convient pas, mais il était à bloc. Il doit avoir un peu peur. Donc, la bataille mentale, là, pour le coup, autant hier, je pense, elle a pas du tout affecté Tadej Pogacar. Ce soir, elle peut affecter Jonas Vingegaard.
Richard, est-ce que tu as le sentiment que bah, il est dans sa course, Jonas Vingegaard, il est plutôt encore souriant, hein, aujourd'hui, on le voyait sur le podium, et qu'effectivement sa spécialité, ce sont peut-être plus les montées longues où il pourra rivaliser, pourquoi pas un peu plus longtemps avec les UAE.
Oui, il faut qu'il rentre dans les étapes de montagne, il sera vraiment là sur son domaine. Aujourd'hui aussi, il voulait pas se mettre aussi à la faute et prendre des risques inconsidérés. Pourquoi ? Parce que le dernier virage, il fallait avoir quand même un peu de sang-froid pour passer plein pot en bas. Hein. Donc, je le connais.
Un peu de coronet, on est en Espagne,
voilà.
Tu peux le dire.
Donc, je pense que Vingegaard, avec le maillot jaune, il a vu Del Toro le passer et plein pot comme ça. Déjà, il a dû se faire peur et laisser partir. Et après, ben voilà, c'est la frustration. Il a pris un trou et c'est pas et le jump comme ça, ben c'était pas son truc. Il aurait pu se faire déboîter, voilà. Mais je pense qu'il était pas dans son domaine, mais il s'est fait, il s'est fait un peu humilier par son adversaire, par Pogacar qui était là pour, parce qu'il avait l'intention de le faire et ça s'est bien ressenti, voilà. Donc c'est, on va dire 1-1, parce que hier c'était l'inverse. Maintenant maintenant on va rentrer, je pense, dans une autre course, hein, dans les prochains jours. Il faudra manger, boire, bien dormir pour les favoris, mais là c'était vraiment un round. Je pense qu'il fallait avoir du cran pour lâcher les freins dans ce dernier virage. Et vous savez, quand vous avez une inertie, vous freinez pas, vous avez une inertie comme Del Toro, et si vous regardez les images, Del Toro, il est passé en bas comme une balle et il est sorti avec 10 mètres. En plus, Poggi derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la cassure. Ben après, il fallait le boucher, l'inertie. Le truc. Et c'était impossible, le trou était fait. Et voilà, donc après, ben, super Poggi, il a mis en route les 100 derniers mètres pour faire son jump. Et l'autre, il est resté tout seul.
Et le sprint a été très très bien emmené par McDulty, hein. À 30 km, il a emmené le sprint et il ne s'est jamais relevé. Donc, il a fait un travail de lead-out formidable.
Non, mais tu sais, Richard,
il y a un truc qui est sûr, c'est que la constatation, c'est que ce Tour de France et tous les coureurs ont compris et sont frileux et on l'a dans la tête, Pogacar. Pourquoi ? Parce que si on est dans un monde normal, McNulty roule à l'entrée du circuit. Qu'est-ce qu'il fait, McNulty ? Il prépare une attaque de Tadej Pogacar ou d'Isaac Del Toro. Il ne roule pas à 30 bornes pour emmener le sprint.
Non, jusque-là, on est bon. Ils n'ont jamais attaqué. Hein,
donc il n'a pas attaqué.
Mais quand le leader d'équipe, le meilleur coureur, on n'a pas de référence, on a vu hier le chrono, on est au Tour de France, c'est la deuxième étape. Dans un scénario à peu près normal, il tient, il attaque pas. Et si on en mettait une, nous, pour voir, parce que ça peut être aussi un signe de faiblesse. Mais ils ont tellement peur de lui, et il est tellement entré dans leur tête qu'ils n'ont même pas osé, parce qu'ils se sont dit on va se faire punir. Ils se sont fait punir quand même, mais c'est signe que cette équipe, et Tadej Pogacar, il ne se fait pas attaquer, parce qu'ils ont peur en fait.
Mais c'est pour ça que Tadej Pogacar continue d'enfoncer la tête de
leur... Je ne critique pas sa domination, je critique son attitude dans les 50 derniers mètres.
Mais c'est exactement
d'encourager le mec.
Encore un peu plus dans la tête de ses adversaires.
Et de danser la carioca aussi.
De leur casser les ailes, de leur casser les pattes et leur casser le moral. Et c'est comme ça qu'il s'impose.
Oui, mais le final est juste illogique tactiquement. Quand on voit qu'ils prennent la main à 30 bornes. D'ailleurs, GG,
ils font 1 et 2, c'est assez logique quand même.
On l'a dit, on prépare une attaque un tour avant.
Effectivement.
Ils font 1 et 2, est-ce que c'est. Ils ont raté leur course. Dans cette.
Mais s'ils veulent faire 1 et 2.
Vous y revenez à Pogacar.
Si on a besoin de faire. Si on court pour faire un sprint et qu'on dit on va gagner le sprint, tu roules pas à 30 bornes comme ça. T'as pas besoin.
Non, Jérôme, puisqu'on parlait aussi de l'adversité, il y a quand même un élément. Remco Evenepoel fait 3e de l'étape, mais Florian Lipovits prend 10 secondes encore. Est-ce que là, dans cette équipe, on a une hiérarchie qui s'établit un peu plus ?
Non, parce que dans ce genre d'effort, depuis hier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au chrono, on sait que Lipovits est moins fort que Remco Evenepoel et que sur le nouveau format, il ne faut pas attendre son coéquipier. Parce que c'est temps individuel. Et sur un sprint dans ce secteur de sprint-là, sprint en boss, punch, dans ces secteurs-là, on sait que Lipovits est inférieur à Remco Evenepoel. Remco a du punch, Remco a de la force, Remco est un coureur avec un bon sprint. Et Lipovits a plutôt un effort long, lent, avec des
virage,
critères qui sont plus de grimpeurs et le virage. Et d'ailleurs, on va certainement parler de Paul Sexas et je pense que lui aussi, dans le virage, il a été mis en difficulté.
On va y venir dans quelques instants, effectivement. Jérôme Coppel, est-ce qu'il y a des garçons qui sont vraiment passés à travers aujourd'hui dans les leaders ?
Alors, vraiment passés à travers, non, à part si tu considères, par exemple, Egan Bernal encore comme un leader, on l'a vu quand même assez juste, mais c'est... De nouveau, je reviens à l'impression visuelle. Ayuso, par exemple, aujourd'hui, alors que c'est des difficultés qu'il connaît bien et qu'il aime bien, je l'ai trouvé un peu juste. Il n'a pas du tout pesé sur la course, mais comme beaucoup d'autres. Mais il reculait beaucoup quand même dans la montée. On n'est qu'à la deuxième étape. Mais c'est peut-être le leader que j'ai trouvé le plus juste. Et à l'inverse, on va sûrement parler après, mais après les deux monstres du AE, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Paul Sexas. Entre tous les efforts qu'il a fait et le peu de temps qu'il a perdu à la fin, peut-être que le troisième plus fort du jour, c'était peut-être le français.
Eh bien, on va en parler justement dans quelques instants de Paul Sexas après une petite respiration.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Et voilà, c'est la suite de l'After Tour, puisqu'on parle et on évoque et on essaye d'étudier au mieux cette première étape en ligne, deuxième étape du Tour de France 2026 entre Tarragone et Barcelone. Victoire d'Isaac Del Toro, victoire offerte par son leader Tadej Pogacar. On décrypte tout ça avec nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenque et on ouvre notre page consacrée comme chaque soir à la journée de Paul Sexas, également avec toi Christophe Cessieux, une journée de Paul Sexas qui a été un peu particulière. On rappelle juste en deux mots que il a failli passer lui au travers.
Lui il a passé vraiment une journée désagréable, Paul Sexas, notamment à l'approche de Barcelone lorsqu'il a été victime d'ennui mécanique. Il a été obligé de s'arrêter, alors il s'est pas énervé, il s'est pas stressé, il a attendu que Paré-Pinte, qui était pas loin de lui, lui file son vélo. Les cotes des deux coureurs sont à peu près les mêmes, donc il a pu reprendre la course, revenir sur l'arrière du peloton. Mais il a décidé, et là on en parlera peut-être dans quelques instants, est-ce que c'était une erreur tactique ou est-ce que ça le gênait franchement d'avoir le vélo de Paré-Pinte. Il a décidé de récupérer son vélo, donc a perdu à nouveau quelques secondes avant que son mécano ne lui file son vélo. Il a réussi au prix d'un gros effort, parce que là on se rapprochait quand même du final, de l'entrée sur le circuit. Il a réussi à revenir à l'arrière du peloton, à remonter. C'est là ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, qu'il a fait forte impression, parce que devant ça roulait très fort avec Manu McNulty. McNulty, il a réussi à se rapprocher de la tête de course. Il restait entre la 10 et la 15e position. Il était bien placé et il a perdu 3 secondes très exactement à la fin de la course. Mais il s'est fait des frayeurs, coup d'adrénaline et puis cette chasse qui a
et la voiture.
En plus, il a failli prendre une voiture de la direction de l'organisation qui a fait qui s'est décalé sur la gauche pour éviter une voiture qui était devant. Donc ça a été quand même une journée désagréable, je le disais, un peu comme le match hier soir entre la France et le Paraguay.
Richard Vien qui est avec nous. Richard, comment tu juges cette gestion de Paul Sexas, de tout ce qui lui est arrivé là à partir des 40 km de l'arrivée? T'en as connu des événements comme ça où il faut être très rapide à faire les bons choix aussi avec les directeurs sportifs. Tu lui mets quelle note ?
Ouais, je crois que ça en est bien sorti par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Parce que, comme tu le disais si bien, il est rentré à l'arrière du peloton, peut-être à 2 km avant d'attaquer le circuit final. Et là, c'était en file indienne. Et il s'est pris des coureurs de partout. Donc il est remonté, je dirais, physiquement tout seul, parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Et j'ai trouvé que j'étais assez surpris au premier passage, parce que je le cherchais un peu à l'écran. Et je l'ai vu déjà revenir au premier passage. Donc j'ai dit, putain, il a fait un sacré retour. Plus les efforts, plus le truc. Bon, après changer de vélo, je crois que quand on joue la gagne et quand on est coureur pointueux comme il est, on préfère avoir quand même sa monture. Prendre un vélo d'un copain, c'est sympa sur le plat quand on est là, mais quand on doit vraiment envoyer les watts et monter et essayer de gagner, il faut vraiment avoir son vélo. Donc il était obligé de le faire. Vous savez, dans le vélo, il faut avoir aussi le côté la chance. L'opportunité, la chance. Et pour réussir, il faut avoir ce côté-là avec soi. Parce que quand on a des pépins et on est toujours à la ramasse avec des pépins, des mécaniques, des trucs, à un moment donné, ben, ça peut être compliqué pour la suite. Pour l'instant, eh ben, il est à la hauteur de ce qu'on lui projette pour l'avenir, je pense.
Eh bien justement, on va essayer d'en savoir un peu plus sur comment cette équipe et son leader ont vécu cette journée, puisque nous sommes en direct avec Léna Marjac, notre reporter, qui est au plus près du jeune Français. Léna, tu as suivi donc l'arrivée de Paul Sexas et aussi tout ce qui s'est passé auparavant. Bonsoir, et comment on vit ça ? Est-ce qu'il y a des sourires du côté de l'équipe Décathlon CMA-CGM ?
Bonsoir tout le monde. Alors il y avait des sourires, c'est marrant, du côté de Paul, mais pas du côté d'Aurélien Paré-Peintre, qui est revenu tout à l'heure au bus assez énervé et contrarié par rapport à l'image, j'imagine que vous avez dû en parler juste avant, mais j'étais pas encore là, de cette fameuse voiture de l'organisation qui a failli justement toucher Paul Sexas et Aurélien Paré-Peintre. Donc Aurélien était assez énervé, agacé de ce qu'il s'était passé, alors que Paul a préféré un petit peu calmer les choses, on va dire. Il avait un peu de sourire, il l'a dit lui-même, hein, c'est une nouvelle fois limiter la casse, 3 secondes de perdu malgré cette journée un peu poisseuse qu'il a vécue. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il résume très très bien ce qu'il a vécu aujourd'hui sur cette deuxième étape.
Honnêtement, c'est très bien au vu des circonstances. Ça a été compliqué. J'ai eu des petits problèmes d'oreillette, mais pas grand chose. Et en fait, ouais, ça a été compliqué après ma crevaison. J'ai changé 2 fois de vélo. J'ai mis beaucoup de cartouches là. Il a fallu que je rentre dans la bosse après. Heureusement, l'équipe a fait un très beau boulot. Forcément, c'était pas facile avec l'oreille qui marchait pas bien, mais on a réussi à bien se trouver et j'ai réussi à me retrouver dans les premières positions. J'essaie de reprendre les forces jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai fait. Au final, c'est monté moins fort que ce que j'attendais dans la dernière bosse. Donc, j'ai gardé un peu d'énergie. À la fin, je me suis fait un peu avoir au placement au début de la descente. J'ai pas pu boucher l'écart. Mais voilà, 3 secondes, c'est pas grand chose et c'est un bon début de tour.
Et on le rappelle, hein, Paul a 19 ans, c'est son premier Tour de France. Et ce matin, justement, Julien Jourdi, son directeur sportif, nous confiait qu'il fallait appréhender un petit peu ce Tour de France, qu'il allait commencer réellement aujourd'hui avec, on connaît, hein, toute cette pression, toute cette tension qu'il peut y avoir lors de la course. Eh bien, on a revu Julien Jourdi tout à l'heure au bus, qui nous a clairement dit que c'était une journée d'apprentissage et qu'il allait sûrement apprendre beaucoup plus vite après ce qu'il a vécu aujourd'hui, que ce soit du côté du staff, mais surtout du côté de Paul Sexas, parce qu'il est tout jeune et il découvre un petit peu tout ça, toute cette animosité aussi qu'il peut y avoir sur les routes du Tour. Donc voilà, une journée un peu poisseuse, mais qui va sûrement servir pour la suite pour Paul Sexas. C'est en tout cas ce qui est ressorti du côté du staff ce soir.
Merci beaucoup Léna, et j'imagine que tu vas aussi prendre quelques informations sur la journée de demain qui s'annonce un peu particulière pour tout le monde, tous les suiveurs du Tour de France, parce qu'on aura l'occasion de vous en parler, mais à cause des incendies, eh bien, cette troisième étape en direction des Angles et de la France sera un peu particulière. On vous détaillera tout ça dans quelques minutes. Paul Sexas, Richard le disait, qui avait bien géré. Paul Sexas qui a quand même dû avoir quelques montées d'adrénaline, Jérôme Pinault, dans ses derniers kilomètres. Et quand on est jeune, quand on a 19 ans, on peut très bien un peu perdre le fil dans ces cas-là. On a le sentiment que lui, ça n'a pas été le cas du tout.
Non, on a le sentiment qu'il n'a jamais paniqué. Il a pris ça avec beaucoup de calme, digne de ce qu'on connaît de lui, hein. Finalement, c'est pas très surprenant, même si on n'aurait pas pu l'accabler si ça s'affolait, parce que il y a la première image, et là elle est sur les réseaux surtout, c'est que depuis ce matin, au départ, ça va pas. Le compteur de Paul ne fonctionnait pas. Le capteur de puissance ce matin ne connaît. On le voit un peu s'agacer, tourner la roue, essayer de comprendre. Il fait un
Aurélien
peu...
déjà qui vient.
Aurélien déjà à ses côtés. Ils ont passé la journée tous les deux à gérer les galères. C'est une journée de chef d'entreprise.
Ils ont échangé leur compteur, échangé leur vélo.
Après, dans la course, il y a le changement, évidemment, c'est la crevaison. C'est jamais bon, de toute façon, c'est agaçant, mais il le fait très calmement. Et pourquoi on donne le vélo à Aurélien ? Parce qu'avant, déjà, ça s'est mal goupillé, puisque Olaf Coy avait crevé, et la voiture, ben, elle n'était pas là. Et comme il n'y avait plus d'échappée, la voiture 2 a été certainement à l'avant de la course. Imaginez le nombre de choses qui font un destin,
il
finalement. Et au final, il n'a jamais paniqué, il rentre et il se replace, il se remet dans les premières positions. Et là, moi, j'ai un grand coup de chapeau à tirer à Tish Benoît. Parce que là, aujourd'hui, Tish Benoît, ça a été le très grand coéquipier qu'il faut pour faire un très bon résultat dans un Tour de France. Il a été très solide, il l'a replacé. Alors évidemment, avec les autres, hein, il y a eu quelques coureurs qui ont fait le boulot aussi. Et puis dans le final, finalement, c'est lui qui a lissé le pied pour essayer de faire en sorte que Paul soit le mieux placé possible et puisse se mettre en ordre de marche pour un effort final. Donc chapeau à Tish Benoît et chapeau à Paul Sexas, parce que jamais paniqué. Je peux te dire que dans ces cas-là, quand tu es à trois bornes du pied et que depuis le briefing ce matin, on te dit qu'il faut être dans les 10 premiers au pied du premier passage, il faut avoir plus que du sang-froid. Grosse paire de coronets. Là,
Jérôme Coppel, on parlait d'apprentissage sur ce Tour de France. Les deux premières journées, là, c'est bon, c'est bien.
Formation accélérée, là. Aujourd'hui, vraiment formation accélérée.
Plus et la dernière étape du Tara.
Exactement.
En ce moment, quand même.
Là, il est vraiment en formation accélérée. Ce soir, moi, j'ai une question par rapport à Paul Sexas. J'arrive pas à savoir ce qui m'épate le plus entre son niveau physique et sa maturité à 19 ans. Parce que Léna précise dans le papier qu'elle a fait, elle dit Aurélien Paré-Pin, t'es arrivé énervé et c'est Paul Sexas qui l'a calmé. Aurélien Paré-Pin, t'as 30 ans. Paul Sexas en a 19 et c'est le gamin qui calme.
On est un peu
dingo, nerveux. Et Jérôme en a parlé, mais la gestion de... Alors, on pourra toujours débattre si c'était bien de changer de vélo, prendre le vélo de Paré-Pin, rechanger, etc. Peu importe. En tout cas, il a jamais paniqué. Juste un petit geste d'humeur parce qu'il a eu peur quand il y a eu l'histoire de la voiture. Et sinon, il n'a pas paniqué. Même pour remonter. Une fois qu'il est revenu dans le peloton, il n'a pas fait un effort en se disant, oh, il faut absolument que je sois dans les 10 premiers. Il a pris son rythme, il est remonté petit à petit. Donc voilà. Autant avant, j'étais sûr que c'était son niveau physique qui m'épatait le plus. Là, j'en suis moins sûr ce soir.
Tu ajoutais tout à l'heure, dans les 3 secondes perdues aujourd'hui, Jérôme, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, il est tombé à 60 à l'heure dans un virage et que pour reprendre toute confiance dans son matériel et dans ses capacités, le dernier virage, ça s'explique. La dernière chose, c'est qu'il va falloir très vite, très très vite, que le staff autour de lui règle les mini-choses qui peuvent agacer un coureur. On a entendu parler du compteur, puis on a beaucoup entendu parler de l'oreillette aussi. Il faut que l'oreillette fonctionne, les gars. Quand Paul Sexas monte sur son vélo, s'il y a un problème, il faut que ça vienne de lui ou de la malchance, mais pas de ce qu'on n'a pas bien fait. Et là, l'oreillette qui décolle... Alors, ça arrive souvent dans le Tour, parce qu'il y en a plein, mais c'est des choses qu'il faut régler quand on a un tel coureur dans son équipe.
Richard, viens. Oui. T'as souvenir, toi, du côté de, je sais pas, le VSI Rouen, Mimosa Sprint Mandelieu, quand t'avais 19 ans, que t'as piqué quelques crises de temps en temps? Tu t'es retrouvé dans des situations comme ça?
Ah, plutôt. Moi,
c'est un sudiste, ça fume.
Ah ouais, non. je me suis retrouvé, je me rappelle, autour du Gévaudan, échappé devant en junior. Et bien sûr, la voiture que je suivais devant, eh bien, se trompe de route. Et donc on nous envoie dans la pampa, on avait déjà 3 minutes d'avance. Hein. Et, oui. Et bien sûr, on se trompe de route, on fait demi-tour, tout ça, et on a pris comme un raccourci pour essayer de revenir au cul du peloton. Bon, passant, c'était pas notre. Et je suivais la voiture. Et en fait, on a été déclassé. Et je vous dis pas à l'arrivée, je voulais manger le commissaire. Je voulais le manger parce que franchement, ben voilà. Donc oui, quand on est jeune, on tape des coups de sang comme ça. Mais oui, pour parler de Paul Sexage, je pense que à l'arrivée, il était content. Pourquoi ? Parce que il a passé une journée où il aurait pu prendre une vraie addition très lourde.
Ah oui.
Et en niveau temps. Et ça s'est passé à 3 secondes. C'est pour ça qu'il était quand même content de sa journée parce qu'il s'est dit, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai perdu que 3 secondes. Parce que je peux te dire, quand tu es dans la file à l'arrière et que, comme on dit à la radio, il faut être dans les 10 premiers pour attaquer le circuit final et que tu es dans le dernier du peloton et tout le monde en file indienne et que tu te chopes tous les morts du peloton parce que tous ceux qui sont à l'arrière, ils n'ont qu'une envie, c'est s'écarter, et que tu fais un slalom entre tous les coureurs pour remonter devant. Je crois que quand il a passé la ligne, Paul Sexas, il a dû se dire, oh là là, quelle journée, que je suis content parce que ça s'est quand même bien fini.
C'est sûr. Et puis là, son tour est vraiment lancé. Il y a eu le contre-la-montre hier. Aujourd'hui, une étape en ligne. Il a eu à gérer des choses difficiles. On espère que demain, ce sera un petit peu plus simple à gérer, puis qu'il pourra être devant et pouvoir être un peu plus à son aise. En tout cas, la casse est limitée pour Paul Sexas. C'est pas forcément le cas pour tout le monde du côté des autres Français, Christophe.
Ouais, mais enfin.
Il y en a qui ont brillé, il y en a qui ont été un petit peu en difficulté, peut-être qu'on attendait mieux.
Il y en a qui ont sombré, on va en parler. Il y a un triplé quand même, alors c'est pas 1, 2, 3, mais c'est 7, 8, 9 pour les Français dans cette deuxième étape. Le premier d'entre eux, c'est Romain Grégoire, étonnant hier dans le chrono par équipe, qui confirme qu'il est en pleine forme après son titre de champion de France, en terminant quasiment dans la roue des Cadors. Le problème, c'est le quasiment, car c'est vrai que c'est un formidable coureur, mais il lui manque encore peut-être un tout petit quelque chose pour jouer la gagne sur ce genre d'étape face à des garçons comme Poggi, Del Toro, Vingegaard et Evenepoel. Il est à son niveau, celui des Johannessen, Skelmose et autres Sexas. Le champion de France qui achève donc son étape juste devant Lenny Martinez, le petit grimpeur de la Marraine, qui avec ce huitième rang égale sa meilleure performance sur une étape du Tour de France. C'était l'an dernier et il avait obtenu la huitième place au Puy de Sancy. Mais il confirme lui aussi qu'il progresse et qu'il n'est plus très loin des cadeaux. On rappelle quand même que le trio Grégoire, Martinez, Sexas, très jeune, 23, 22, 19 ans, c'est la nouvelle force du cyclisme français. Donc l'avenir est là à portée de fusil des champion. Derrière, en revanche, c'est plus compliqué, notamment pour Kevin Vauclin, Poissard hier dans le chrono par équipe avec sa crevaison au plus mauvais moment, alors qu'il était prévu qu'il parachève le succès des Net Company Ineos. Il n'y a pas eu de succès. Le Normand très déçu hier, qui doit l'être encore un peu plus ce soir, car Kevin, qui n'a pu se préparer comme il le souhaitait pour ce tour, termine loin du compte. 51e à 6 minutes 52 de Del Toro. Vauclin, qui savait depuis hier que son rêve de maillot jaune s'était envolé, il lui reste maintenant à essayer de se refaire la cerise mentalement et physiquement en tentant d'aller accrocher une victoire d'étape, lui qui se soir ne fait plus peur à grand monde. Vauclin qui coince et Baudin en revanche qui confirme sa très bonne forme, vainqueur de la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques semaines. Le Savoyard achève l'étape à la 15e place, à 10 secondes seulement. Lui aussi fait partie de la jeune garde, il a 25 ans, il est vieux à 25 ans, t'es un vieillard désormais dans le peloton, mais il fait lui aussi partie de la jeune génération française qui brille et qui va briller, on l'espère, jusqu'à la fin de ce tour.
Déception Jérôme Pinault autour de Kevin Vauclin. On attendait mieux sur ce premier week-end.
Oui, mais vu les déclarations qu'il a faites depuis qu'il est arrivé ici, on ne sentait pas un garçon en pleine confiance. Maintenant, il est dans les étapes qu'il aime normalement. On rappelle que son étape gagnée sur le Tour de France était aussi sur un circuit et aussi avec une difficulté assez courte, mais dans lesquelles on appelle des qualités de puncher. Là, il s'est plié, il s'est troué parce qu'il n'est pas bien. Mais voilà, tout simplement.
Alors, il a été malade avant le Tour, on rappelle. Oui, il n'a pas fait le championnat prêt, de France. Après, son résultat, on peut lire de deux manières. Kevin Vauclin, son objectif, c'était hier. Par contre, il a dit avant le départ du chrono qu'il ne jouait pas le général. Donc si aujourd'hui il sent qu'il n'a pas les jambes et qu'au mieux il va faire 15e, vaut mieux se relever comme il a fait et essayer d'aller chasser des étapes plus tard. Mais ça, on aura la réponse.
Et là, il va essayer d'améliorer sa forme petit à petit pour aller progresser et chercher une victoire.
Exactement. Donc c'est peut-être un mal pour un bien qui démarre pas super bien ce Tour de France.
Il y a des Français très bons devant, Pierre-Yves, mais il y a aussi eu un Français énorme à l'arrière. On doit donner et pas quitter cette émission sans donner un grand coup de chapeau à Baptiste Westhofer qui a fait échapper et qui, quand Arnaud Delis a été en grande difficulté, ils ont fait 70 km tous les deux et ils ont pris seulement.
Oui, il l'a fait tout seul même, on peut dire. Parce qu'il l'a
tracté, avec Delis, ils ont pris seulement 18 minutes. Donc
pour son premier tour. Il espérait être échappé, il attend son pote et il le sauve parce que s'il n'est pas là, Denis est à la maison. Donc chapeau à lui.
C'est toujours un exercice compliqué, ça, quand on a...
Ah, j'en ai passé du temps, moi, à l'arrière, je peux te dire.
Ah oui, tu peux me rappeler, comme tu avais avec toi.
Alors, le permis autobus, hein, là, il faut calculer les délais. Hein.
Ouais, il s'appelait Mark Cavendish, toi.
Oui, exactement. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans le même rôle que Baptiste Westhofer. Il pétait dans tous les talus. Et donc, il fallait qu'on l'attende, et je l'attendais avec grand plaisir, c'était mon pote.
Mais lui, il n'attendait pas dans les descentes, parce que j'ai fait qu'un groupe étau avec vous. Je me rappelle encore de la descente. Je pense qu'il y a encore de l'huile dessus depuis 10 ans, tu vois. Mais moi, j'ai eu peur.
C'était on fait tout à fond dans les descentes, parce que c'est là qu'on va gagner du temps. En montagne, c'est là où on limitait les écarts. Dans la plaine, ça roulait fort aussi. Mais lui, il ne passait pas beaucoup de relais. Donc, en général, c'était moi qui m'y collais avec Julien Vermotte à l'époque. C'est très, très fatigant. Hein. Ce que vient de faire Baptiste Westhofer, c'est beaucoup plus fatigant qu'une échappée. Parce qu'une échappée, tu es euphorique, tu es devant. Là, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui te filme. Il y a Jean-Louis dans son camion. Il te colle au cul avec sa voiture balai qui me dit bon, t'avances, qu'il y a le sandwich qui m'attend à l'arrivée. C'est un peu ça. Et c'est comme ça que tu passes beaucoup de temps quand tu es avec un sprinter. Alors là, en plus, Arnaud est malade, mais dans les montagnes, là, demain, c'est rebelote, même scénario. Il va attendre et ils vont tout faire à deux.
Ça, personne ne te demandait d'attendre, toi, Richard. Hein?
Moi, j'étais devant et je faisais le show tout seul aussi. Avec les spectateurs. Heureusement qu'ils étaient là. Ils m'ont encouragé. Donc, pour revenir sur Kevin Vauclin, je pense qu'on va le revoir. Hein. Ce qui nous a laissé entrevoir l'année passée dans le Tour de France, ce qui nous a laissé entrevoir cette année, je trouve qu'il a pris du coffre. Ce qui se passe là dans le début du tour, c'est pas dans le bon sens. Mais je crois qu'il va conjurer le sort et je sais pas, mais il y a mon petit doigt qui me dit qu'il va prendre la poudre d'escampette et il va aller nous chercher quelque chose de sympathique dans pas longtemps.
Oui, comme tu le disais hier, parfois les déceptions permettent aussi d'ouvrir quelques portes et de pouvoir se glisser dans des échappées. On l'espère pour lui, évidemment. On ouvre la dernière page du livre de l'after de ce soir. Il nous reste quelques minutes pour évoquer quand même quelque chose d'important parce que sur le Tour de France, c'est pas souvent que ça arrive. Je pense que c'est même jamais arrivé à cette hauteur. Le Tour de France va vivre une journée demain très particulière entre Granollers en Espagne et les Angles en France, puisque l'étape sera interdite au public. Alors on va voir le détail dans quelques instants avec Romain Asselin, mais pour vous expliquer en deux mots, il y a des incendies qui se déroulent actuellement dans les Pyrénées-Orientales. Et que le Tour, les préfets, l'organisation du Tour de France ont été obligés de faire vite pour s'organiser. Romain, tu es à nos côtés. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est tramé dans les dernières heures aujourd'hui sur la route du Tour ?
Oui, le suspense était long tout au long de la journée. Alors, il faut rappeler que la situation est critique dans les Pyrénées-Orientales avec un incendie qui a déjà détruit 1650 hectares dans un massif qui est difficile d'accès avec un vent qui attise les flammes, énormément de sapeurs-pompiers par centaines déployées sur place. La situation d'autant plus critique qu'un habitant et un sapeur-pompier sont à l'heure où on parle en urgence absolue, donc beaucoup de moyens déployés sur place. Un feu qui est, en tout cas les forces de l'ordre, les moyens de secours sont en train de le contenir pour ne pas qu'il passe le sud de la départementale 66 qui sera empruntée, en tout cas qui même ça va peut-être changer dans les heures à venir, mais qui était censé être empruntée en tout cas par les suiveurs du Tour, c'est-à-dire notamment les bus des équipes.
Et donc, oui, parce qu'on explique sur le Tour de France, en fait il y a la course et puis pour tous ceux qui suivent et qui ne sont pas directement sur la route de la course, il y a ce qu'on appelle le hors-course, et donc c'est cette route qui normalement devrait être empruntée par tous les suiveurs.
Oui, la route est coupée aujourd'hui. Alors, effectivement, les Angles se situent à 60-70 km à vol d'oiseau du lieu de l'incendie. Donc, il n'y a pas de conséquences, de menaces directes, puisque on a eu le maire des Angles, Michel Poupade, tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, au téléphone. Il n'y a aucun risque d'incendie annoncé sur le site de l'arrivée. Et la décision, alors, c'est pas totalement une interdiction dans la mesure où et le préfet des Pyrénées-Orientales et Christian Prudhomme invitent, je dis bien invitent, le public à ne pas se rendre sur place.
Ah, c'est pas une interdiction totale.
Ça va être compliqué. Sur la partie française, c'est-à-dire que ça concerne 44 km à partir de l'entrée en France sur le final de l'étape, avec deux difficultés au programme, le col du Calvaire et l'arrivée finale donc aux Angles. Évidemment, ces deux endroits, on attendait énormément de monde demain. Dire qu'il n'y aura personne, Ça paraît un peu présomptueux.
Mais ça veut dire que les forces de l'ordre n'empêcheront pas forcément les spectateurs d'arriver, ou c'est un peu flou
Il va falloir être très pédagogue, je pense, demain. Il n'y a aucune décision qui a été prise concernant la partie espagnole, donc je pense qu'il y aura énormément de monde là, pas de problème. Il y a un dispositif de sécurité qui fera, on va dire, le gendarme à partir du moment où les coureurs entreront en France.
Nous, ce qu'on peut dire, c'est de déconseiller aux gens d'aller, parce que ce sont des zones dangereuses, qu'éventuellement, il faut laisser passer aussi les pompiers, etc. Et donc, il faut le moins possible encombrer ces routes d'arrivée. On sait que c'est déjà arrivé sur le Tour de France. Alors, je ne sais pas si vous, messieurs, vous avez connu ça. C'était récemment dans le Puy-de-Dôme, parce que c'était un site naturel. Donc il y avait l'arrivée qui était sans public, le mur de Péguerre aussi à l'époque en Ariège, les lacets
de Montvernier,
exactement.
Et il y aura une petite partie comme ça vers le plateau de Solaison aussi, cette année.
Ouais, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans le Tour de France. Jérôme, c'est aussi particulier pour les coureurs, ça va sans doute être une atmosphère un peu triste.
Bah oui, ça va tout changer. Ça change beaucoup de choses pour les coureurs. Alors, ils ont l'habitude, parce que sur d'autres courses que le Tour de France, il n'y a pas toujours un grand public, mais c'est surtout le changement radical de passer de l'Espagne avec beaucoup de monde à l'autre côté, plus personne. C'est assez étrange comme atmosphère.
Mais je pense qu'il y aura quand même du monde, parce que les gens aux Angles, par exemple, on va pas leur interdire d'aller voir le
film. À l'arrivée, qui sont sur place.
Il y a déjà du monde aux Angles. Hein. Le maire me disait déjà 15 000 personnes présentes sur place.
Les gens qui sont déjà sur la route, les camping-cars.
Moi, j'avoue que je ne comprends absolument pas la non-décision, finalement, de dire... Vous pouvez y aller, mais on vous conseille de ne pas y aller. Ça veut dire quoi, en fait
C'est le genre de choses qu'il faut dire aux Français, en plus.
Moi, je pense que ça ressemble à l'état d'esprit de la France aujourd'hui, vous voyez. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, les coureurs, on peut les laisser passer. Ils peuvent pédaler, respirer. Il y a un feu à côté, mais vous pouvez y aller. Par contre, les spectateurs, non, vous pouvez pas y aller. Alors, s'il y a un risque de feu, moi, je comprends pas. S'il y a un risque de feu, le feu, il est en formation, ben, pourquoi y aller? S'il y a pas de feu, c'est tout à fait, pourquoi ne pas laisser, s'il y a les coureurs, pour pas laisser les gens, ils ont prévu leurs vacances, tout ça, là, je sais pas. C'est un poids de mesure. Bon,
Richard, on va écouter justement le patron du Tour, Christian Prudhomme, puisque tu l'as rencontré, Romain.
Oui, on l'a vu, effectivement, ASO a mis du temps à réagir, mais on a eu Christian Prudhomme, le patron du Tour, après l'arrivée. Et ce qu'il dit, en gros, c'est un incendie exceptionnel, mesure exceptionnelle. Écoutez-le.
Les équipes de la préfecture des Pyrénées-Orientales et du Tour de France étaient en contact toute l'après-midi. Et nous sommes convenus, au vu des conditions exceptionnelles et effroyables de l'incendie qui règne dans les Pyrénées-Orientales, de ne pas faire passer la caravane sur les 40 derniers kilomètres, cette caravane publicitaire, c'est-à-dire sur les 40 derniers kilomètres sur la partie finale en France, de limiter le passage aux coureurs et aux véhicules d'organisation qui sont indispensables. Et on invite le public à ne pas venir aux abords de la course ni sur le site d'arrivée. La première chose, c'est la protection des gens, bien évidemment, et des terrains. Je tiens un coup de chapeau d'ailleurs, comme le préfet a pu le faire, aux pompiers et à toutes les associations qui luttent contre le feu en ce moment même.
Voilà, on invite, disent le patron du Tour.
Et sur le site d'arrivée aussi.
Et le préfet, effectivement. Maintenant, c'est une conséquence indirecte de la chaleur, ce qui se passe. Et dans les prochains jours, avec les fortes chaleurs qui sont annoncées en France, Christian Prudhomme n'est pas à l'abri de devoir s'adapter à nouveau. À l'arrache, j'ai envie de dire, vraiment au fil de l'eau. Quoi.
Ah, mais il a déclaré d'ailleurs, il a dit qu'il allait s'adapter à la situation jour après jour. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a cet incendie, ce feu dramatique, pour les populations et pour les paysages. Mais il y a aussi, dans les jours à venir, la crainte. Et là, on connaît tout le poids du Tour de France et tout le poids qu'a Christian Prudhomme, la crainte d'une décision préfectorale, d'un préfet qui ferait un peu de zèle et qui voudrait faire parler de lui. Parce que ça arrive aussi en France avec ces gens-là. Donc il faudra toujours être vigilant. Mais c'est sûr que c'est comme la crevaison, le compteur, l'oreillette qui ne marche pas, etc. On n'a pas envie de ça. Ça marche quand même, on s'adapte, mais c'est mieux quand ça n'arrive pas.
Mais si à un moment il faut prendre cette décision, parce qu'il y a trop de gens en danger, effectivement.
En revanche, il a le contact direct avec le président de la République, donc je pense qu'il peut passer au-dessus du préfet, s'il a besoin de le faire. Voilà.
Il nous reste 1 minute 30, Jérôme Coppel, ta spécialité, parce qu'on a parlé de cette étape, alors il n'y aura peut-être pas de public. Non, mais juste le décor, et puis peut-être, comme d'habitude, le vote favori pour l'étape de 2.
demain.
Eh ben, on arrive dans la montagne, hein, ça y est, entre Granollers, je ne sais pas si je le prononce très bien, ça va, ça et va. Les Angles, première étape, on va dire, de semi-montagne, 3850 mètres de dénivelé positif, 196 km. Un départ costaud, hein, ça va partir tout de suite en bosse avec une première difficulté de troisième catégorie, la côte de Sainte-Feuillue de Codines, 7,6 km à 4,5%. Ensuite, plutôt dans une vallée, et ensuite les difficultés sur la fin de l'étape avec un premier long col. Hein, le premier long col du Tour de France, le col de Tossès, 9,3 km à 6,5%. Le col du Calvaire, oh bah celui-là porte bien son nom, hein, 11,4 km à 4,1%. Et la montée finale vers Les Angles, donc quand même 3850 km, mètres de dénivelé, oui. Pardon. On pourrait voir demain un changement de maillot jaune éventuel.
Ton favori pour l'étape?
Je me suis pas penché.
Oui, vrai, on sait pas. Ah, attention, il y a 30 secondes. Richard, vas-y, Richard.
Lenny Martinez.
Ah, bien, ouais.
Il va aller chercher les points du maillot à poids. En plus, il n'est pas trop loin. Il va vouloir un peu briller, prendre de l'avance. Je vois bien avec Vauclin dans l'échappée. Voilà, tout va bien.
Christophe.
Valentin Paré-Peintre. La bagarre pour aller chercher les points. Pour succéder à Richard, ils sont tous les deux dans le coup. Donc voilà, un et l'autre.
Jérôme Pinault.
Alex Baudin,
vous avez que des Français. Hein,
oui,
Français.
Bien sûr.
Ouais, allez, évidemment, pourquoi pas.
Allez, Jérôme Coppel, 5 secondes, 4, 3.
Et je reste français, Ewan Costiou.
Allez, Ewan Costiou. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à l'After Tour. On se retrouve demain et vous retrouvez évidemment l'intégral Tour sur la radio RMC avec toi, Christophe, avec les consultants. Et on se retrouve demain soir pour l'After. Merci beaucoup. À demain.
RMC, l'After Tour.